a-t-il ?
Je viens de détecter une déficience de l'antenne radar.
Veuillez vous présenter à l'identification vocale.
Je veux que vous me parliez. Je voudrais vous entendre.
Est-ce excessif ?
S'il vous plaît, répondez-moi.
Cinérama.
Bonjour.
C'est bien. Encore une fois, bien articulé.
Cinérama.
Parlez normalement et détachez bien chaque réponse.
De quoi s'agit-il ?
Question intéressante.
Actualité cinéma.
Ah, un petit mot encore.
Et tout le reste.
En fait, nous avons tous les renseignements utiles. Oui, merci.
Juste un petit détail afin de mettre mon dossier à jour.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oui. Non.
Bonjour, malheureusement, nous n'avons pas pu voir le dernier Wes Anderson, L'île aux chiens, ni The Third Murder, le Kore-eda. Emmanu s'est abstenu de regarder l'Heroic Land, la frontière brûle, hein, le documentaire fleuve de Nicolas Klotz. Mais on a pu voir d'autres films. Certains sont en salle depuis le 11 avril et d'autres le sont déjà depuis le 4. Bonjour Manu, bonjour Marine, de quoi on va parler ?
Bonjour à tous. Alors moi, pour ma part, je vais vous parler de deux films qui ont en commun les accidents de voiture, c'est-à-dire le nouveau Gus Van Sant et Taxi 5.
Moi, je vais vous parler de deux films qui n'ont rien à voir en commun, Dans la brume et Alors des souvenirs.
Et puis moi, je vous parlerai de Kings de Denis Gamze-Erguven et puis de Luna d'Elsa Dieringer. Et ce sera l'occasion d'écouter la réalisatrice pour son premier film. Et on écoutera aussi la comédienne qui a été repérée sur un casting sauvage, comme on dit. Et moi, je pense qu'elle pourra concourir au César du meilleur espoir. Laetitia Clément, qu'on écoutera donc dans Cinérama, qui débute maintenant.
Avez-vous remarqué qu'on tourne de moins en moins de films d'action actuellement ?
Oui. Cinérama.
Le monde devient philosophique.
Alors, comme vous l'avez deviné, j'imagine, avec les bruitages, on commence avec Taxi 5. Je ne sais pas si vous savez ce que signifie l'effet Mandela. Ça définit une croyance populaire, une fausse croyance de masse. Par exemple, Dark Vador n'a jamais dit « Luke, je suis ton père », il dit « Non, je suis ton père ». Pourquoi est-ce qu'on appelle cela l'effet Mandela ? Parce que beaucoup de gens pensent que Mandela est mort en prison alors qu'il est tranquillement décédé en 2013. Et pourquoi je vous parle de cela ? Eh bien parce que la majeure partie du public pense que Luc Besson a réalisé Taxi, mais pas du tout. Taxi 1 a été réalisé par Gérard Pires et c'est Gérard Krogsvik qui a pris la relève pour les taxis suivants, Luc Besson s'étant quant à lui contenté de produire cette série. Et pour le retour du célèbre taxi blanc marseillais, il confie les rênes à Franck Gastambide, réalisateur et acteur des Kaira, qui peut enfin assumer sa ressemblance avec Vin Diesel dans un film où ça crache de la voiture dans tous les sens. Alors l'histoire, le lieutenant Sylvain Marot, interprété donc par Franck Gastambide, est muté à Marseille où il se retrouve aux prises avec un gang de braqueurs de bijouterie qui utilisent des voitures surpuissantes. Pour les prendre en chasse, une seule solution, retrouver le légendaire taxi ayant appartenu à Daniel.
Monsieur le préfet a donné l'ordre que vous soyez muté sur le champ, à la police municipale de Marseille.
De Marseille dans le sud ? Mais là, faut pas trop s'attacher, parce que moi, normalement, je vais être muté au raid.
Police municipale ! Non ? Ah !
Alors toute la complexité de l'entreprise ici était de fédérer plusieurs générations. Les trentenaires qui ont vu tous les taxis et les moins de 16 ans à qui le film est clairement destiné vu la teneur des blagues, mais qui pour la plupart n'ont vu aucun des taxis précédents et on ne peut pas trop leur en vouloir. Eh bien figurez-vous que ce nouvel opus remplit fort bien son cahier des charges entre plan de Marseille, course-poursuite en voiture et humour scato à tous les étages. Pour ma part, j'ai vu le film en 4DX, ce qui signifie que dès qu'un des personnages vomit, on nous envoie de l'eau dans le visage. C'est extrêmement immersif. Le duo principal, Franck Gastambide et Malik Bentala, marche bien, ou plutôt ça roule, devrais-je dire, tout simplement parce que ces deux acteurs-là savent réellement jouer. Ils ont un talent comique indéniable et une complicité évidente. Terminé, les Samina Seri et Frédéric Diefenthal, ils n'apparaissent même pas dans ce nouvel épisode, et franchement, tant mieux. Mais le nouveau script rend quand même largement hommage au film précédent, en distillant des références dans tous les sens. Bon, par contre, demander à une comédie française de ne pas être sexiste, apparemment c'est encore un peu trop compliqué. C'est dommage, les scénaristes avaient réussi à intégrer un personnage de nana badass comme il faut, mécanicienne, interprétée par Sabrina Ouazani. Malheureusement, tous les autres personnages féminins cumulent l'étard et les stéréotypes. Alors oui, si vous avez un ado à la maison et que vous n'avez pas peur des scènes où la diarrhée gicle dans tous les sens, emmenez-le voir Taxi 5. Par contre, j'ai lu les premières critiques du film qui estiment pour la plupart que le film est raté comparé au précédent. Et je pense vraiment que les journalistes ont la nostalgie mal placée parce que sincèrement, les 4 d'avant étaient vraiment nuls. Vraiment. Donc je pense que le 5e, c'est pas très difficile et meilleur.
Mais si on n'a pas vu les quatre, on comprend.
Ah, c'est pas grave, tu comprendras très bien.
Mais c'est quelques petites références. C'est tout. Voilà. C'est la base.
Voilà, et quelques musiques.
Et ça fait encore un autre film sur la police municipale, après Les Chevaliers du Fiel. Voilà, ça fait deux films comme ça sur les écrans sur cette police municipale. On va complètement changer de sujet avec un film qui est dans les salles depuis le 4 avril, c'est Dans la brume.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, je vous dis. Et même saloperie, hein.
Sarah, est-ce que le gaz rentre dans ta bulle? Sarah, réponds-moi! Sarah!
Dis-moi, Manu, le film va répondre à cette question, quand même.
Alors, qu'arrive-t-il à Sarah? Et qui est Sarah? Donc, Sarah, c'est la fille d'Anna et Mathieu, hein, donc un couple séparé plutôt soudé, hein, qui vit donc auprès de leur fille, qui est enfermée, on va dire, dans un caisson, dans une bulle, étant atteinte d'une maladie rare l'empêchant de respirer normalement. Voilà, cette petite touche mélodramatique, d'ailleurs, n'apporte strictement rien au film, hein, sinon, pour justifier un twist final ridicule, bah, que même un enfant de 5 ans peut anticiper s'il a visionné un épisode des Teletubbies. Voilà, tout semble baigné dans une certaine harmonie quotidienne. Alors jusqu'au jour où une brume sortant des égouts envahit Paris et décime les passants. Une brume toxique, donc vague écho à la pollution envahissant les villes. Alors autant le dire tout de suite, hein, aucune explication scientifique ne viendra étayer le scénario qui se contente de montrer les faits et le comportement des survivants. Alors cet aspect est plutôt un bon point, hein, le seul sans doute. Alors cela nous évite de se farcir un jargon incompréhensible d'une éminence grise justifiant l'apparition du phénomène alors que souvent on s'en tape complètement. Cette brume alors, a envahi toute la capitale, hein, donc Anna et Mathieu tentent de survivre et surtout de protéger leur fille. L'absence de superflu ne justifie pourtant pas un tel vide scénaristique.
J'ai trouvé quelque chose, un nouveau protocole, ultra prometteur. Bon, le seul truc, c'est qu'il faut qu'on déménage.
Pourquoi tu veux toujours tout compliquer, Mathieu?
Il a une fille maintenant.
J'appelle pas ça une vie. Bon, je te dis qu'elle va sortir. Un jour, ma fille, je vais la prendre dans mes bras et elle aura une vraie vie.
Alors, cinéaste québécois, auteur il y a 14 ans d'un premier long métrage fantastique très intéressant qui s'appelait La peau blanche, Daniel Roby signe son premier film français. Alors, son amour du genre a dû l'aveugler car, en dépit d'une idée de départ originale pour une production hexagonale, bah, Dans la brume est, sans mauvais jeu de mots, une catastrophe qui échoue sur tous les plans. Alors, passé le premier quart d'heure, hein, condensé dans la bande-annonce, qui se suffisait presque à elle-même, on comprend absolument tout, il ne se passe absolument plus rien. Les ressorts dramatiques sont pitoyables et archi-prévisibles, les personnages ne sont que des enveloppes creuses, les dialogues ridicules ressemblent à ceux d'un épisode de Plus belle la vie, et le tout baigne dans un sentimentalisme écœurant. Alors, à force de ratisser large, les auteurs s'abordent la moindre bonne idée, et surtout un postulat de départ qui envoie un autre et qui est quand même assez singulier en France, hein. Un film catastrophe, moi j'en ai pas vu. On a vu des films post-apocalyptiques un peu comme il s'appelait Malville, un film début des années 80, puis le film d'Anneke, Le temps des loups, qui est bon.
C'est vrai qu'il y en a eu plusieurs, oui.
Il y en a eu quelques-uns, mais le film catastrophe, ça n'existe pas en France. Mais le problème, c'est que là, rien ne fonctionne. À commencer par ce couple de petits vieux qui habitent au-dessus d'Anna et pauvre Michel Robin, hein, c'est un excellent comédien au demeurant qui semble s'échapper d'un épisode de Fraggle Rock, ce qu'il jouait dedans. Michel Robin, c'est un acteur, il doit avoir 95 ans aujourd'hui, hein, mais il est très... c'est dommage, il est très très mauvais. Et la mort de ce couple du troisième âge est un hommage risible à Titanic, genre ils se tiennent par la main en attendant la grande faucheuse. Alors, on a vu ça, je ne sais pas combien de fois depuis le film de Cameron. Alors, on ne sait pas s'il faut en rire ou en pleurer, mais ce pur produit estampillé TF1 ressemble vraiment à un mauvais téléfilm. Les effets spéciaux numériques ne sont même pas impressionnants. La vue de Paris dans le brouillard laisse complètement indifférent. Alors, sans doute parce que totalement dénué d'enjeu, hein, dans la brume, bah, c'est un navet, un dolore, un color, et puis sans aucune saveur. Et puis, pour couronner le tout, hein, Romain Duris et Olga Kurylenko ont rarement été aussi transparents. Certainement brouillé par la brume.
Par la brume.
Je ne sais pas.
Bon, je crois que le compte est bon, hein, pour Dans la brume, qui est dans les salles depuis le 4 avril. Un autre film, et on va plutôt se diriger vers celui-ci, c'est un premier film, celui de Elsa Diringer, qu'on va pouvoir écouter dans Cinérama.
À quoi sommes-nous confrontés?
Cinérama.
C'est quoi, c'est une blague ou quoi?
Donc, c'est le film Luna, qui vit près de Montpellier, travaille dans une exploitation maraîchère. Elle est belle, drôle et pleine d'énergie. Elle est amoureuse de Ruben, un chef de groupe qui a la posture d'un macho. Alors, au cours d'une soirée eh bien, trop arrosée, avec ses amis, ils agressent un jeune inconnu venu graffer dans un bâtiment abandonné. Et quelques semaines plus tard, celui-ci réapparaît dans la vie de Luna à son travail. Luna va devoir donc faire des choix. Ce premier film d'Elsa Diringer, qu'elle a tourné dans sa région natale de Montpellier, prend le spectateur à rebrousse-poil sur de de nombreux plans. L'héroïne qu'elle choisit ne fait preuve alors d'aucun remords face à l'agression qu'elle et ses amis commettent. Et on se demande bien comment on va pouvoir donc s'y attacher. Le sud qu'elle choisit est celui des zones pavillonnaires, de la garrigue et de la lumière diffuse mais jamais chaude, alors qu'elle aurait pu prendre bien la plage comme l'a fait Abdelatif Kechiche dernièrement. Elle choisit aussi bien d'assumer un accent du sud chez certains des personnages, un naturalisme nécessaire selon la réalisatrice car il s'agit de montrer la jeunesse de province. Alors même si quelques situations semblent extravagantes, eh bien rien ne sonne faux. La réalisatrice tire un fil, nous emmène avec son personnage retors, capable de se tromper souvent, de méchanceté parfois, mais qui est capable aussi de beaucoup mieux. Laetitia Clément, qui interprète Luna, est une parfaite inconnue et illumine le film tout en énergie. Rod Parado, révélé dans La tête haute d'Emmanuel Berco, qui a été le César du meilleur espoir il y a peut-être 3 ans, est également parfait dans un rôle de garçon qui a subi une agression sexuelle et qui se retrouve confronté, eh bien, sans le savoir finalement, à un de ses bourreaux. La figure de ce jeune homme graffeur, sensible, musicien dans une fanfare, s'oppose à celle de Ruben, le chef de clan, et perturbe Luna. Et il s'agit d'une histoire d'amour, mais qui, bon, au premier abord, n'a absolument rien de romantique. On écoute la réalisatrice Elsa Diringer pour son premier film.
Ce qui est étonnant, c'est que tout le monde s'attend au pire. Ouais. Parce qu'en fait, le film a été écrit à la façon d'une tragédie. Donc tout est là pour qu'on ait peur. Et ça, c'est chouette parce que je trouve qu'un film où on a peur, où on attend la suite, moi, c'est des films qui me plaisent.
Joyeux anniversaire.
Au début, j'avais imaginé un film en alternance entre le point de vue de Luna et le point de vue d'Alex. Et puis finalement, je me suis focalisée sur le point de vue entre guillemets du bourreau, qui était le plus... Voilà, le plus complexe.
On se pose des questions parce qu'on prend quand même le spectateur à rebrousse-poil. Parce qu'effectivement, il faut quand même l'aimer, ce personnage. Et c'est pas évident dans les premières séquences. C'est un film qui est rude, qui commence rudement.
Ouais, c'était un peu le pari, quoi. Le pari de ce film, d'assumer de commencer par cette séquence en se disant, en posant une immense question au spectateur. Dire, qu'est-ce qui s'est passé? Comment on va pouvoir se remettre de ça? Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Et ce qui m'intéressait aussi, c'est de suivre ce personnage dans son inconscience après, parce qu'elle n'a aucun regret. Elle continue sa vie comme si de rien n'était. Et de montrer cette absence d'empathie. Et malgré tout, voilà, de se dire, mais alors c'est quoi cette fille? Qui est-elle? Comment est-ce qu'elle va changer? Est-ce qu'elle va se rendre compte à un moment de ce qui s'est passé? Et moi, ça m'intéressait de poser cette question-là.
C'est juste qu'on est bourré, tu sais, c'est mon anniversaire, on est quand même mort.
Mais bon, je m'en fous de ton anniversaire.
Pas que le personnage de Luna, finalement, il y a aussi Luna et son entourage, et notamment le personnage de Ruben, que là aussi, vous avez quand même gratiné.
Il fallait que quelqu'un soude ce groupe, et dans un groupe, je trouve qu'il y a souvent un personnage comme ça qui aspire les autres. Et pour moi, c'était Ruben, il aspire ses copains, et puis il influence aussi sa petite copine. Il a besoin de se nourrir de cette admiration et de cette servilité des autres. Et donc, s'il n'y a pas ça autour de lui, il n'est pas bien. Donc, c'est pour moi quelqu'un de fondamentalement violent dans ce besoin de dominer les autres.
Tu me trouves son adresse, d'accord? Comme ça, j'irai chez lui, je mettrai un coup de pression.
Lâche l'affaire.
Tu lui as dit au moins ce que t'as fait sans là?
Assume pour une fois.
Pour moi, au fond, Luna, c'est une ado relativement ordinaire quand même. Elle n'est pas droguée, elle n'est pas, sa mère ne l'est pas. Alors certes, le père n'est pas présent dans le film, mais elle a un travail, elle a un patron qui la considère. Donc je ne voulais pas la charger négativement. Je pense que cette histoire et cette agression auraient pu ne pas arriver. C'est des jeunes ordinaires et un dérapage peut arriver n'importe où. C'est des jeunes normaux et ordinaires. Et c'est vrai qu'ils sont peu représentés parce qu'aujourd'hui, quand on dit jeunes au cinéma, c'est forcément des jeunes de banlieue de Paris, ou bien des jeunes bourgeois de Paris aussi. Et on a l'impression que le reste de la jeunesse n'existe pas, que le reste de la France n'existe pas non plus d'ailleurs.
Moi je pensais à ça, il y a des réalisateurs de la province comme Alain Guiraudy, comme Laurent Cantet qui vont au-delà de Paris. Vous avez eu besoin sans doute de retourner ici, ou ça a été facilité de toute façon parce que vous avez vécu à Montpellier, mais n'empêche que vous faites autre chose de la ville de Montpellier. Vous auriez pu montrer justement la ville avec ses beaux côtés, mais c'est pas ce que vous avez cherché. Vous avez cherché, il y a les zones industrielles, il y a les zones maraîchères. qui sont présentes autour de la ville. Il y a les zones pavillonnaires. Enfin voilà, finalement, il y a une vraie construction d'espace dans votre film.
C'est une histoire qui n'est pas facile. C'est une adolescente qui est en construction et j'avais envie que les décors racontent un peu cet état de friche et de zone intermédiaire. Donc j'ai vraiment cherché à chaque fois les zones à la limite entre ville et campagne. Et
vous le traduisez justement, effectivement, dans la lumière. Vous racontez un sud, mais un sud... Enfin, qui est un peu aveuglant, enfin, avec une lumière très, très diffuse.
Je ne voulais pas d'une lumière trop chaude, trop douce. Par exemple, il y a Les Ogres de Léa Fener, qui est un film que j'adore, mais qui a un parti pris de lumière hyper chaud. Et donc, je me suis dit, ça, ce n'est pas mon film. Nous, il faut qu'on aille vers des choses plus blanches, plus dures, plus tranchées.
Excuse-moi, on fait quoi une fois qu'on a fini avec les cagettes ?
Tu les prends et tu les mets... Il y a les chariots là-bas.
Ok, merci.
C'est bon, le mec il t'a pas calculé, il s'en souvient plus.
Même moi, avec ta nouvelle coupe de cheveux, je t'ai pas reconnu.
Mais pourquoi il se pointe à mon taf? C'est pas possible.
Mais je me fous de tes petites histoires, voilà. Alors si tu veux partir maintenant, tu pars, tu reviens plus.
Chut. Il y a le personnage féminin, effectivement, bon, qui crève l'écran. Il y a aussi l'autre choix masculin, parce que cette fille, elle tourne autour de deux hommes. Le choix de Rod Parado, qui est tout en fragilité, enfin, on l'a déjà vu dans son premier rôle qui lui a valu le César du meilleur espoir. Comment vous avez décidé de le choisir, lui ?
Et je trouve qu'il a ramené quelque chose de très inattendu à ce rôle que je n'avais pas prévu, c'est-à-dire un côté enfantin. Quand ils sont ensemble, dans le film, il y a une innocence qui est retrouvée, et qui tranche complètement avec le personnage de Ruben, qui est tout à fait un autre modèle d'homme.
Tu veux que je te dépose ? Bon, allez, monte.
L'affiche, qu'est-ce qu'elle raconte de votre film ?
Ben pour moi, j'aime bien le mouvement des cheveux qui raconte pour moi l'énergie de ce personnage, qu'elle est en mouvement, qu'elle est tout le temps à 200 à l'heure. Et elle me paraît aussi inquiète dans son regard. Elle a un regard inquiet, et comme si elle était menacée. Et c'est, pour moi, c'est ça. Ça ne va pas être simple.
On écoutait donc Elsa Dieringer, la réalisatrice de Luna, film que je vous conseille dans les salles eh bien, depuis le 11 avril. Et qui interprète Luna ? Eh bien, c'est Laetitia Clément, une jeune lycéenne. Alors rien ne l'a prédestinée à tenir un premier rôle. Elle a été détectée dans son lycée Nîmois par l'équipe du film. La réalisatrice voulant pour son personnage eh bien, une jeune fille du coin avait l'accent. Et donc c'était un casting sans enjeu pour elle. Mais tout de même, quand on n'est pas actrice, eh bien, on a moins l'expérience du jeu. Et elle nous raconte les difficultés qu'elle a rencontrées sur le tournage.
Il y avait des scènes, par exemple, des scènes de pleurs. Je me suis demandé comment j'allais faire pour pleurer, déjà, faire semblant de pleurer. Surtout, la première scène qu'on avait fait, qui n'ont pas été montées, c'était des scènes au lycée où je devais pleurer de joie. Donc ça, c'est hyper compliqué. J'ai vraiment galéré parce que j'ai jamais trop pleuré de joie, en fait. Donc ça a été compliqué. Et finalement, les autres scènes de pleurs, avec la fatigue, puis l'émotion de la scène, ça s'est fait assez facilement. Enfin, facilement. Ça s'est fait naturellement, on va dire.
Voilà, c'était Laetitia Clément, l'interprète de Luna. On va maintenant parler du dernier film de Gus Van Sant.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passera aisément.
Don't worry, he won't get far on foot. Merci Gus Van Sant pour ce titre qui va rendre fou plus d'un spectateur à l'entrée du cinéma. Au moins Taxi 5, c'était facile à dire. Alors Gus Van Sant revient au biopic intimiste comme pour Harvey Milk, mais un biopic constitué d'âmes perdues et lunaires comme on en trouvait dans son précédent Restless. John Callahan, dont c'est la véritable histoire donc, alcoolique depuis sa plus tendre enfance, est victime d'un grave accident de la route un soir de beuverie qui le laisse tétraplégique. Alors cela ne calme pas pour autant son appétence pour la boisson et il va donc intégrer un groupe de parole pour tenter de sortir de son alcoolisme. En parallèle, il va se mettre à dessiner. Il deviendra un caricaturiste reconnu aux États-Unis et il rencontrera une jeune hôtesse de l'air suédoise, jouée par Rooney Mara, dont on a un peu l'impression que le réalisateur a trouvé n'importe quel rôle prétexte pour la faire jouer aux côtés de Joaquin Phoenix, qui est son copain dans la vie. Alors le titre, que l'on peut traduire par « Ne vous inquiétez pas, il n'ira pas loin à pied », est à prendre au premier degré. Le personnage n'aurait pas été bien loin dans sa vie s'il était resté valide, s'il avait gardé l'usage de ses deux jambes. Paradoxalement, c'est grâce à son handicap qu'il va réussir à prendre sa vie en main. Cet accident va devenir une chance. Autour de Joaquin Phoenix, un excellent casting, Bess Ditto, la chanteuse du groupe The Gossip, et surtout Jonah Hill, récemment vu dans War Dogs ou encore dans Le Loup de Wall Street, qui est simplement mais incroyable ici. Il forme une galerie de personnages personnage atypique, cynique, toujours drôle malgré les épreuves. Alors bon, même si ce n'est pas vraiment original de faire un film indé autour d'une bande de laissés pour compte qui se soutiennent, on peut même dire que ça a déjà été vu 100 fois, cette happiness therapy fonctionne totalement. Gus Van Sant opte pour un récit non linéaire avec une maîtrise de la temporalité qui rend l'ensemble à la fois confus et limpide. La mise en scène est irréprochable et puis il a une vraie tendresse pour ses personnages qui, même lorsqu'ils sont profondément pathétiques, ne sombrent jamais dans le pathos. Porté par des dialogues toujours poétiques, surréalistes, à côté de ce que l'on attend, le film ne verse jamais dans le misérabilisme et pourtant avec un tel sujet, il y avait de quoi. C'est un film très réussi et c'est même tellement réussi, je vous jure qu'il y a des moments où on a l'impression à travers l'écran de sentir des relents d'alcool. je vous promets, n'allez pas voir ce film si vous avez la gueule de bois.
Et pas en 4D DX, hein, par référence
et
à Taxi.
En 4DX, voilà.
Merci Marine. Maintenant, eh bien, c'est Albéré et Daniel Craig dans un même film.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
3 ans se sont écoulés depuis son premier long métrage Mustang, carton au César avec 4 prix, nommé aux Golden Globes, aux Oscars, Ode à la liberté et l'émancipation en huis clos dans une famille turque composée uniquement de filles. Et bien, le premier film de Deniz Gamze Erguven avait impressionné critique et public en frôlant les 500 000 spectateurs. 3 ans après cette expérience, et bien, ça lui a permis à la réalisatrice de franchir un cap, et pas n'importe quel, hein, puisqu'elle se retrouve dès son deuxième long métrage aux États-Unis et elle accroche à son casting de Kings la séduisante Albert et le James Bondé Daniel Craig. Alors contrairement à Mustang où la famille était oppressante, ici la famille baigne dans un univers bienveillant qui va voler en éclats. La réalisatrice franco-turque nous plonge en 92 à South Central, un quartier populaire de Los Angeles où vit majoritairement une communauté afro-américaine au moment du procès de Rodney King. Alors ça, c'est cet automobiliste afro-américain qui va se faire rouer de coups par 4 policiers blancs. Les images feront le tour du monde et malgré cela, eh bien, les 4 policiers vont être acquittés. Aucune charge ne sera retenue contre eux, une véritable honte, un moment criant d'injustice pour une communauté afro-américaine qui refuse évidemment le verdict parfaitement humiliant. Alors s'en suivront 6 jours d'émeute, mettant eh bien, des quartiers de Los Angeles les plus pauvres à feu et à sang, d'autant qu'il n'y a pas eu que l'affaire Rodney King, mais également eh bien, celle de Latasha Arlins, une jeune noire abattue par la patronne d'une épicerie, et évidemment cette personne a été acquittée. Bilan d'une justice confisquée, 4000 personnes arrêtées et plus d'une 50aine de morts. Donc le film se déroule au moment où tout bascule. Nous sommes dans le foyer de Millie, interprété par Albéry version coupe afro, qui s'occupe bien non seulement de ses enfants, mais de tous ceux du quartier qui n'ont plus de parents et qui sont en attente d'un foyer. Au total, ils sont 8. Hein. Ça fait du monde et le réveil a un petit côté Torrescola, où l'on passe de chambre en chambre, on fait des petits bisous sur les pieds. Mais donc c'est une version lumière chaude californienne. Cette femme dont le boulot consiste à préparer des gâteaux est amour, don de soi, et c'est ainsi qu'elle fait tenir son foyer. Mais ce foyer, eh bien, va vaciller. La réalisatrice va montrer comment des événements extérieurs, soit les émeutes raciales, peuvent avoir un impact sur l'intime. Car la confusion qui règne à l'extérieur va s'immiscer dans le foyer, et celui-ci va s'éparpiller. À l'image de son personnage doux dans une situation extrême, eh bien, le film va ménager un ton dur et léger. La dureté sera donnée au traitement des émeutes qui renvoient les communautés entre elles. Alors, si les émeutes partent d'un sentiment d'injustice, très vite, eh bien, celles-ci deviennent le terrain de pillage, de lynchage désordonné, avec des armes qui changent de main, des policiers aux émeutiers, avec toutes les générations et couleurs de peau. Hein. Le flic pour tenter de faire respecter un ordre, un commerçant pour punir un voleur, des jeunes pour se venger. Deniz Gamze Erguven nous immerge donc dans ces combats de rue et ne manque pas de parsemer son récit d'images d'archives, du procès Rodney King jusqu'aux émeutes, montrant un pan de la ville entier plongé dans le noir et les flammes. Mais la réalisatrice a fait également le choix d'instaurer de la légèreté. Un mélange troublant, puisqu'elle superpose parfois 2 situations. Albéry et son voisin Daniel Craig qui font connaissance et le drame que vivent 3 adolescents. La légèreté qu'elle distillait dans Mustang de manière alors, uniforme, se refusant totalement au drame, elle la superpose ici avec un montage alterné qui pourra eh bien, en déstabiliser plus d'un. La tragédie côtoie la comédie romantique. C'est pas facile. Ooh, child, things are gonna get Child, things are gonna get easier. Ooh, child, things will get brighter. Someday we'll get it together and we'll get it undone. Someday when the world is much brighter. Someday we'll walk in the rays of a beautiful sun. Someday when the world is much lighter. Là, nous entendions Nina Simone. Alors, ça intervient qu'au générique parce que, de toute façon, c'est la musique qui est davantage diégétique. Hein. C'est soit sont les enfants qui chantent, soit c'est un morceau qu'on entend. Mais il ne me semble pas avoir noté de musique dans ce film. Alors, baignant dans une lumière chaude, court, rythmée, drôle et parfois haletant, Kings, le deuxième long métrage de Denis Gamzé-Erguven, offre une perspective à un événement historique qui se répète régulièrement aux États-Unis, à savoir le crime de policiers blancs à l'encontre de victimes afro-américaines. Le propos de la réalisatrice n'est pas de faire un film coup de poing, moralisateur, une reconstitution historique, mais de développer un récit en nous montrant comment la tragédie finalement d'un événement peut écorcher l'intime. Si certains personnages ont le sentiment de se venger, d'autres emportent une télé d'un magasin, certains perdent un ami. Mais comme le ton du film peut virer très vite à la légèreté, Kings cache aussi dans la révolte qu'il montre la naissance d'une vie nouvelle. Deux personnages d'ados crèvent l'écran, alors notamment une jeune fille borderline et grande gueule, et puis un jeune homme introverti secrètement attiré par l'audace de cette jeune fille qui ne se laisse pas attraper si facilement. L'amour et ses possibilités, selon les générations, conduisent à des tons bien tranchés. Donc voilà, il y a la tragédie et puis la comédie romantique, alors, qui lie Daniel Craig d'ailleurs dans un rôle, bien qu'on le voit, on le voit habituellement maintenant, enfin on le voit plus souvent maintenant dans ce type de rôle. C'était notamment le cas aussi dans le film de Soderbergh où c'était un prisonnier vraiment qui montrait ses muscles mais avec des tatouages, rien à voir avec le James Bondé. Voilà, Kings, c'est dans les salles depuis le 11 avril.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Non, j'ai été plutôt déçu. Alors c'était sûrement une comédie.
Ritesh Batra, le vent en poupe depuis son succès surprise, son premier film qui est sorti en 2013, le très mignon The Lunchbox, pur produit exotique indien, hein, ne pouvant que séduire le public occidental. Il vient d'ailleurs de réaliser pour la chaîne Netflix Nos âmes la nuit avec un duo qui aurait fait fureur dans les années 60, Robert Redford et Jane Fonda. Et oui, de retour. Alors en attendant, voici que sort Au loin les souvenirs, alors adaptation du très beau roman de Julianne Barnes, Une fille qui danse. Le scénario fidèle à l'ouvrage est néanmoins un modèle d'écriture et de construction porté par des dialogues tout en finesse et non-dits évocateurs. Alors un pur condensé du savoir-faire britannique. Alors dans son magasin de photographie de Londres, Tony Webster mène une existence tranquille. Sa vie pépère prend une tournure perturbante le jour où la mère de Véronica, son premier amour, lui lègue en héritage le journal intime d'Adrian Finn, son meilleur ami du lycée, un personnage sombre et complexe. Alors dès lors, le passé ressurgit, certains secrets feraient mieux de le rester ou pas, tout dépend de quel point de vue on se place. Entre flashback et flash-forward, le récit articule très bien les sautes de temps entre passé et présent. L'histoire alambiquée est prenante comme dans un thriller à tiroir, captivant le spectateur dès les premières minutes. Alors la belle ambiguïté d'alors des souvenirs est d'adopter le point de vue de Tony et de ne jamais s'en écarter. Ses souvenirs sont-ils le reflet de la réalité ou sont-ils déformés par le temps qui passe, nous jouant plus d'un tour. Alors toute la saveur de ce drame psychologique tient au portrait incisif du personnage principal, admirablement interprété par un comédien habitué pour ses seconds rôles et qui s'avère magistral. Alors entre humour pince sans rire et mélancolie désabusée, Tony Webster semblait un personnage idéal pour un certain Bill Murray. Jim Broadbent apporte une touche british supplémentaire, aperçue dans plus de 100 films, dont Harry Potter, Indiana Jones ou encore Bridget Jones. Ce comédien remarquable porte tout le film sur ses épaules. Alors tous les autres second rôles, comme dans tout film anglais souvent, sont épatants. Alors à part peut-être Charlotte Rampling au jeu trop glacial pour convaincre. C'est-à-dire que c'est un peu la caricature de cette froideur. J'ai l'impression qu'elle fait que ça depuis le début.
Oui. Non.
Pratiquement. Ah oui, je sais pas. Moi, je l'ai vu à l'époque dans le film de Chéreau, La chair de l'orchidée. Elle était déjà extrêmement glaciale. Mais je sais pas. Là, c'est un peu trop caricatural. Alors, À l'heure des souvenirs est une œuvre intelligente, insensible et élégante, mais qui souffre d'une mise en scène appliquée ultra académique qui empêche le film de décoller, de n'être autre chose qu'une adaptation intelligente, mais légèrement aseptisée. Alors, la fluidité du montage, la belle lumière, les cadrages soignés, alors constituent davantage un décorum séduisant qu'une réalisation inspirée, transcendant un scénario épatant. Voilà. Je dirais que c'est un film de scénaristes plus que de metteurs en scène, mais c'est un film assez plaisant.
Bon, ça contrebalance un peu la mauvaise critique tout à l'heure que tu as faite dans la brume. Ouais.
Alors, méfiez-vous des apparences et contrôlez toujours qui est qui.
Qui est qui ?
Il n'y a pas contrôlé qui est, qui.
Quoi, qui est qui ?
À quoi, qui est qui, quoi ?
Eh bien, qu'y a-t-il ?
Auriez-vous oublié que nous partons ?
La séance est levée.
Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire.
Inutile d'avoir des regrets, c'est trop tard.
On a déjà notre sommaire pour la semaine prochaine, Marine.
Eh oui, moi je vais vous parler qualité française avec le nouveau film de Kev Adams et ainsi qu'une comédie française de Héloïse Lang qui s'appelle Larguée.
Et on aura l'interview.
Exactement.
Et moi je vous parlerai de Jersey Affair.